L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Parole à vous partager. Tout à l'heure, je me souvenais de mon père. Mon père a passé des années dans l'Église. Et il n'était pas né de nouveau. Et un matin, un dimanche matin, en allant dans une forêt pendant que ma mère allait à l'église, il allait pour cueillir des champignons. Et là, pour la première fois, il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car tu ne connais ni le jour ni l'heure. Et vous savez, il y a une fausse vie chrétienne. La fausse vie chrétienne, c'est suivre Jésus pour ce que Jésus peut nous apporter. La Bible dit que la foule suivait Jésus. Et Jésus s'est retourné vers eux. Et leur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et la plus grande adoration qu'on peut donner à Dieu, c'est notre vie. Et je crois que le Saint-Esprit veut parler à plusieurs personnes en leur disant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Posez-vous la question, est-ce que réellement je vis pour Dieu? Ou est-ce que je vis une fausse vie chrétienne? Est-ce que réellement mes prières chaque jour, mes pensées chaque jour se tournent vers Dieu et se tournent vers les intérêts du royaume de Dieu? Ou est-ce qu'ils se tournent vers mes propres besoins? Et la plus grande des louanges, le plus grand sacrifice, la plus belle adoration, c'est une vie livrée à Dieu. C'est une vie consacrée à Dieu. Et c'est ce genre de vie que Dieu s'attend. Jésus ne s'attend pas à des gens qui le suivent. Jésus s'attend à des gens qui sont morts à leur volonté, qui ont renoncé à leur vie, qui ont renoncé à leur passion, qui ont renoncé à leur désir, qui ont renoncé à toute attente en dehors du royaume de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, et si vraiment nous voulons suivre Jésus, nous devons renoncer à tout pour lui. Nous savons les choses auxquelles nous devons renoncer, mais plus que tout, nous devons renoncer à notre propre vie. C'est la plus belle des choses qu'on puisse donner à Dieu. C'est renoncer à notre vie et vivre pour lui, s'offrir à lui, prier pour ses intérêts. Jésus a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Et on voit deux catégories maintenant dans l'Église. C'est les gens qui s'associent pour boire et pour manger. C'est les gens qui prient pour boire et pour manger. C'est l'argent qui prie pour « Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Et il y a une autre catégorie. C'est ceux qui plient le genou devant sa sainte présence. C'est ceux qui ont une crainte de son nom. C'est ceux qui chaque jour veulent plaire à Dieu. C'est ceux qui chaque jour disent « Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux accomplir ta volonté. » Ce sont des gens imparfaits comme les autres. Mais leurs motivations sont épurées. Et passent du temps à épurer leur motivation devant le Seigneur. Ce ne sont pas des gens qui prient forcément pendant des heures, mais ce sont des gens qui se donnent à Dieu chaque heure de leur vie. Ce sont des gens qui cherchent les âmes. Ce sont des gens qui cherchent à voir l'Église être fortifiée, à être bâtie. Mais si tes intérêts et ce qui t'anime jour après jour, ce sont des choses de la vie, mais tu vas mourir avec ces choses. Tu vas mourir et être enterré avec ces choses. Jésus nous a parlé de cet homme qui avait de grands biens et qui disait, maintenant mon âme, réjouis-toi. Et cet homme ne connaissait pas le jour de sa mort. Et Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Beaucoup de gens peuvent dire, j'adore Dieu, mais Dieu cherche des adorateurs. C'est la plus grande des choses que Dieu cherche. Tu peux fermer la bouche et être un adorateur que Dieu aime. Et tu peux avoir la bouche bien ouverte et dire de belles paroles et être un faux adorateur. Le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui suit Jésus. C'est celui qui a renoncé à sa vie, qui accomplit la volonté de Dieu et qui suit Jésus. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à épurer nos motivations. Et Dieu t'appelle à regarder dans ta vie, mais pour qui tu vis ? Prier, lire la Bible, donner sa dîme, faire des offrandes, même donner de l'argent aux pauvres, tout ça les pharisiens le faisaient. Ils le faisaient. Mais par contre, ils étaient dans une fausse vie spirituelle, parce qu'ils vivaient pour eux-mêmes. Quand Dieu leur demandait des choses, ils se retiraient. Quand Dieu les amenait à plus de consécration réelle, ils se retiraient. Quand Dieu les amenait à enlever tous leurs masques religieux, ils se retiraient. Quand Dieu les amenait à se mettre à genoux, comme cet homme qui pleurait et qui disait « Seigneur, je ne suis rien », ils restaient debout, tellement fiers et tellement orgueilleux. Et il y a des gens parmi nous, on a besoin de se mettre à genoux. Il y a des gens parmi nous, on a besoin de se mettre par terre et de s'humilier devant la présence de Dieu. Il y a des chaînes qui tombent lorsqu'on s'humilie devant Dieu. Il y a des chaînes qui tombent lorsqu'on se met à genoux devant Dieu. Certainement tous, peut-être, vous vous êtes dit un jour, Dieu vous a parlé à l'église et vous a dit simplement, mets-toi à genoux et commence à prier. Ce n'est pas pour la forme, mais Dieu nous demande de faire des choses parfois pour briser des choses dans nos vies. Et si nous résistons, la Bible dit, ne résistez pas, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Et le Saint-Esprit parle à l'église, n'endurcis pas ton cœur, mais rends ton cœur tendre, 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 tendre. Et marche dans une humilité beaucoup plus grande, beaucoup plus sincère, dans une intimité avec Dieu beaucoup plus sincère, beaucoup plus pure. Dieu cherche la pureté. Dieu cherche la vérité. Dieu cherche la sincérité. Dieu cherche l'amour. Dieu cherche la justice. Et si tu cherches toutes ces choses avec lui dans son royaume, la bénédiction de Dieu reposera sur ta vie. La Bible dit que Dieu comblera la maison du juste de sa présence, de sa merveilleuse présence. Mais que cherchons-nous réellement ? Cherchons-nous la présence de l'argent ? Cherchons-nous la présence de l'homme ? Cherchons-nous la présence de l'approbation ? Cherchons-nous la présence d'être reconnu par les gens ? Ou cherchons-nous simplement la présence de Jésus ? Il n'y a rien comme la présence de Jésus. La présence de Jésus. J'aimerais qu'il m'emporte maintenant dans sa présence. J'aimerais qu'il revienne maintenant. Et être dans sa présence, dans sa sainte présence. La Bible dit qu'il n'y aura plus peur, il n'y aura plus cri, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus d'angoisse. Les ténèbres, toutes ces choses auront disparu. Voilà pourquoi l'apôtre disait, sachant ces choses, combien votre comportement et votre attitude sur la terre doivent être saintes. Car Dieu vient chercher une église sainte, une église pure, une église sans tache et ni ride. Et c'est ce que le Saint-Esprit voulait vous partager ce matin. Sois pur. Procède au changement. Fais des changements. Renonce à des choses. Renonce. Et alors tu pourras suivre Jésus vraiment.
Adieu. Bien, gloire à Dieu. Le message qu'on vient d'entendre, que Pasteur Jérémie a livré, c'est le cœur de Dieu. Et puis le Seigneur, s'il nous parle, c'est pour nous préparer. Amen. Merci, Tristan. C'est pour préparer nos cœurs pour vivre ce que Dieu veut vraiment qu'on vive. Et on est vraiment privilégiés d'être ensemble, savez-vous? On est privilégiés d'être ensemble ce matin. Parce que le Seigneur, il veut vraiment faire quelque chose parmi nous. C'est merveilleux. Je veux juste vous encourager, comme on chantait ce chant-là que mon épouse nous conduisait dedans, la gloire du Seigneur, l'Esprit de Dieu me disait, ils ne connaissent pas encore c'est quoi la gloire du Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez vivre la gloire de Dieu. Et vous allez découvrir, je ne vous l'enseignerai même pas, ce ne sera pas moi qui va vous l'enseigner, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous l'enseigner. Puis vous allez saisir et vous allez goûter à la gloire de Dieu. C'est merveilleux ça. Je veux juste vous encourager avec ça. La gloire de Dieu, vous allez l'expérimenter. Ce n'est pas une chose qui va rentrer par votre tête. Ça sera vraiment, vous allez vivre l'expérience de la gloire de Dieu. Amen. On est en train de se positionner tout simplement pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avez-vous vos épées? Gloire à Dieu. Alléluia. Père éternel, on te remercie, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec nous. Merci pour ce que tu veux faire parmi nous. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions dans cette place. Nous déclarons que c'est toi le roi des rois, le seul Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Esprit qui travaille dans les cœurs aujourd'hui. On est pris au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien d'entre vous, vous voulez vivre un changement avec Dieu dans vos vies, en levant la main? Maintenant, combien d'entre vous, vous voulez changer? Parce que c'est comme ça fonctionne, hein? Donc, on veut vivre un changement, mais Dieu nous appelle à changer. Mais ce matin, ce qu'on va voir, on va voir un message que je sais est de Dieu. On poursuit dans le thème de la semaine passée, la saison de la faveur surnaturelle. La saison de la faveur surnaturelle. Et je sais c'est de Dieu parce que j'ai reçu des points dans un rêve que je devais vous apporter. Mais j'ai oublié tout ça. Vous savez, on rêve, puis après, ça m'est revenu par la suite. C'est comme, tu te rappelles dans le rêve? Oui, je m'en rappelle. Ça veut dire que j'ai préparé mes notes. Et puis, je crois que si vous recevez ce matin, mais si vous voulez changer, vous allez vivre quelque chose de différent et vous allez entrer dans une saison nouvelle dans votre vie. Vous allez entrer dans une nouvelle saison. Et c'est toujours une question de choix et de décision personnelle si on veut. Mais si on veut, si on a la volonté, on va manger la meilleure production du pays. Donc, venez avec moi dans le psaume 5 et le verset 12. Le psaume 5 et le verset 12. Gloire à Dieu. Le psaume 5 et le verset 12, il est écrit, « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Donc, on fait un petit retour ce matin sur certains passages qu'on a vus la semaine passée. Mais on comprend que Dieu est la source de notre faveur, la faveur surnaturelle. On l'a vu la semaine passée, la portion naturelle, on peut tous l'expérimenter. Mais la portion surnaturelle, c'est celle qu'on veut, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, ça dit, « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Et on s'est posé la question, mais pourquoi on a besoin de la faveur de Dieu? Pourquoi? Pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie, pour entrer dans notre destinée. Ce matin, je vais vous faire répéter ce que vous avez dit la semaine passée. Répète après moi, Père, ouvre mes yeux pour voir ce que tu veux que je voie. Amen. Soyez conscients que ce matin, Dieu veut vous montrer ce qu'il vous appelle à faire. Gloire à Dieu. Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Pouvez-vous vous voir complètement environné de la grâce de Dieu dans votre vie? Pouvez-vous vous voir vraiment vous habiter dans une bulle de la grâce, de la faveur de Dieu dans votre vie? Êtes-vous capable de vous voir? Moi, je vais prendre mon temps ce matin. Êtes-vous capable de vous voir partout où vous promenez, la faveur de Dieu est sur votre vie? Amen. Parce que si vous ne le voyez pas, vous ne le vivrez pas. Ça, je prends le temps. Êtes-vous capable de vous voir ce matin, partout où vous promenez, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est sur vous? Êtes-vous capable de voir ça? Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 16, un autre verset qu'on a vu la semaine passée, c'est dit « Jésus a déversé sur nous une grâce après l'autre, une faveur après l'autre. » Une grâce après l'autre, une faveur après l'autre. C'est ce qu'on a avec le Seigneur. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Et on a vu également la semaine passée l'importance d'être dépendant sur le Saint-Esprit, dépendant des dons du Saint-Esprit pour entrer dans notre destinée. J'ai illustré plein de points concernant comment les dons du Saint-Esprit ont opéré dans ma vie pour me préparer à vivre ce que le Seigneur me préparait à vivre. Et puis, je ne répéterai pas le message de la semaine passée, mais c'est important de réécouter si vous n'étiez pas là, parce qu'il y a des choses que vous allez saisir pour votre propre vie. Mais c'est ça, l'importance du Saint-Esprit dans la vie de la personne favorisée par Dieu. C'est absolument essentiel. On a vu 1 Corinthiens 14, verset 1, « Aspirez aux dons spirituels. Aspirez, désirez ardemment. Désirez. Il faut vouloir passionnément vivre les dons du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand on est en amour, il n'y a personne qui est obligé de nous dire « Tu devrais faire ceci ou cela pour la personne qu'on aime. » N'est-ce pas? Quand on est en amour, il y a un désir qui est là. Et l'enfant de Dieu qui a été sauvé, qui a été purifié de ses péchés, mais qui est devenu un adorateur de Dieu, un amoureux de Dieu, bien, il va désirer ce que Dieu désire. Il va avoir le cœur de Dieu. Amen. Donc, on a vu ça la semaine passée, aspirer aux dons spirituels. Et on a vu également Zacharie 4:6. Il est écrit, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel, concernant la reconstruction du temple, les choses grandioses à faire, peu importe l'appel que tu nous donnes, ça dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en essayant, mais comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut vivre notre victoire? Comment est-ce qu'on peut progresser dans notre vie spirituelle? C'est uniquement par le Saint-Esprit, notre relation vivante, véritable avec notre Dieu. C'est comme ça qu'on peut arriver à vivre véritablement la faveur de Dieu. Mais aujourd'hui, on parle de faveur, la faveur de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut attirer la faveur de Dieu? Si ça fait partie de notre héritage, notre forfait divin, en Christ, dans Éphésiens, ça dit que nous avons été favorisés dans le bien-aimé. Mais comment l'attirer véritablement dans ma vie? Comment est-ce que je peux attirer la faveur de Dieu? Et pourtant, la Bible nous dit que nous sommes favorisés dans le bien-aimé. Et en même temps, on comprend que certains chrétiens qui aiment Jésus, qui s'en vont au ciel, sont sauvés de nouveau, ne vivent pas la faveur. Pourtant, c'est leur droit, ils peuvent bénéficier de cette faveur-là, mais ils passent à côté. Est-ce qu'on veut passer à côté de la faveur de Dieu? Non, parce que si c'est le cadeau que Dieu vous donne, être dans la faveur, être environné de cette faveur-là, constamment, vous avez le choix de marcher dans la faveur ou de sortir de la faveur. Mais moi, je ne veux pas sortir de cette dimension-là de la faveur. Moi, je veux vivre pleinement la faveur de Dieu et je crois que vous voulez vivre la faveur de Dieu également, n'est-ce pas? Amen. Mais pour y arriver, des fois, on a besoin d'entendre des choses pour comprendre et être changé dans nos pensées, être changé dans notre comportement pour être totalement révolutionné dans notre vie. Donc, dans Proverbes 12, verset 2, venez avec moi dans Proverbes 12, verset 2. Je vais vous lire à partir de la version Osterwald. Proverbes 12, verset 2. Il est écrit, « L'homme de bien attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamnera l'homme qui est plein de malice. » L'homme de bien attire la faveur de l'Éternel. L'homme de bien, ou si on veut, l'homme bon ou l'homme excellent, attire la faveur de Dieu dans sa vie. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Donc, on a l'espoir ce matin qu'on peut attirer la faveur de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Pas pour soi-même, pour entrer dans notre destinée, pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie. Dieu nous a tous donné un appel. Dieu nous a tous donné une destinée glorieuse en Dieu. Mais peu entrent dans leur destinée. Peu entrent dans leur destinée. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Bien parce que la chair entre dans le chemin. Ce matin, ce qu'on va voir, je vais vous partager des choses de ma vie personnelle. Et je vais vous montrer certaines choses, je vais vous partager certaines choses pour que vous puissiez discerner dans votre propre vie. Et voir, peut-être, il y a des choses que vous allez apprendre pour dire, OK, moi ce que je veux, c'est uniquement la volonté de Dieu. Je veux uniquement la parole de Dieu en opération, les promesses de Dieu dans ma vie. Et je veux mettre de côté la chair, toute cette dimension-là qui pourrait m'empêcher d'aller de l'avant. Amen. Donc, l'homme de bien attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamnera l'homme qui est plein de malice. Le premier point que je vais vous partager ce matin, la patience vis-à-vis notre saison spirituelle. Pour entrer dans cette faveur et bénéficier véritablement de la faveur de Dieu, la première chose que vous avez besoin, c'est le mot patience. Dites patience. On va y aller lentement ce matin. On va aller tellement lentement que vous allez recevoir ce que Dieu veut pour vous. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de la patience. Au lieu de vivre la frustration, le mépris de notre saison. Vous savez, chaque saison de notre vie, doit être une saison où on est dans la joie et l'apprécier. Chaque saison. La saison de formation, la saison difficile, la saison où il y a une tempête. Il y a une tempête, admettons, dans votre vie. Même dans la tempête, cette saison-là va me façonner et me préparer pour ce que Dieu en réserve pour ma vie. Mais moi, j'ai vécu une période de frustration dans ma vie. J'étais à l'antenne de télévision Miracle Channel à l'époque. Et puis, j'étais béni, j'avais toutes sortes de belles opportunités, mais j'étais frustré parce qu'il y avait des choses que je voulais faire que mon pasteur, que l'antenne de télévision ne me proposait pas encore. Et puis, j'étais dans un temps de frustration. Avez-vous déjà été frustré? Amen. Alléluia. Sauf que là, en tant qu'être humain, j'ai vécu des frustrations. Mais j'étais frustré. J'en parlais pas, au moins. J'en parlais pas, mais en dedans, je vivais des choses. J'en parlais à ma femme. Et puis, je rêvais. J'étais dans mon bureau au Miracle Channel. Puis, ceux qui sont venus dans mon bureau, vous avez vu, j'ai plusieurs livres. J'en avais autant dans le temps. Là, j'ai fait le ménage. J'ai fait 4 boîtes de livres que j'ai données. Parce qu'il faut faire de la place pour d'autres livres. Mais j'étais assis dans mon bureau et je rêvais. Je vais faire mes boîtes et je vais quitter de cette place. Je pensais comme ça. J'étais frustré. Ça vous scandalise, hein? Non? OK. J'étais frustré. Et là, il y avait un prophète qui est venu à l'antenne de TV, Bill Hammond. Combien d'entre vous, vous connaissez Bill Hammond? Certains d'entre vous. Pas grand monde. Personne, finalement. Mais Bill Hammond, c'est le père du mouvement prophétique aux États-Unis. Et puis, ça s'adonne qu'il venait faire de la télévision au Miracle Channel. Et là, le président de l'antenne, il nous appelle tous. On sort tous de nos bureaux. Il nous convoque dans l'église parce qu'il y avait un sanctuaire dans les studios de TV. Moi, j'étais dans l'équipe pastorale de cette église-là. C'est comme si l'auditorium ici, c'est dans les studios de TV où on fait des émissions en même temps. Donc, juste vous mettre dans le contexte. Et puis là, on reçoit tous un appel sur notre téléphone dans le bâtiment. Il y a 65 employés. S'il vous plaît, quittez votre travail, venez dans l'église parce qu'on a un invité et puis il va faire le ministère sur vous pour prier pour vous. Et puis, bon, moi, j'arrive là. Et puis... ce prophète-là, c'est un prophète très, très, très exact. Il reçoit de Dieu des choses très précises. En fait, je vais juste vous illustrer comment c'était précis. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Becky et son mari Matt, pour Matthew. Les deux, bon, c'est un couple marié, mais ils travaillent dans 2 départements de la station, 2 départements différents. Elle arrive, genre la première rangée, et son mari vers le fond de la rangée, de l'église. Et puis là, le prophète Bill Hammond commence à donner une prophétie sur Becky. Moi, je savais, tout le monde savait qu'elle quittait la station de TV pour s'en aller en tant que missionnaire, pas aux Philippines, en Thaïlande. Et puis là, il commence à donner une parole prophétique, mais spécifique concernant la Thaïlande. C'est vraiment incroyable. Mais là, Matt, son mari, à l'autre bout, commence à prophétiser sur lui aussi, mais il ne connaît pas du tout ce couple-là. Il donnait des prophéties, mais précises. En passant, c'est biblique, la parole de Dieu nous parle des prophètes. Si vous dites, ah, mais ça ressemble aux diseuses de Bonaventure. Les diseuses de Bonaventure, c'est des copies ou des imitations, si on veut. Des imitations. Le diable va toujours imiter le vrai. OK? Donc, Dieu nous donne des vrais dons de l'Esprit Saint pour bâtir l'Église et le diable va imiter pour détruire. OK? Mais juste pour vous faire comprendre, vous aider à comprendre, ici, on voyait que c'était très, 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 très spécifique. Les paroles. Et le monde pleurait parce que Dieu connaît notre vie, nous connaît dans l'intimité, n'est-ce pas? Voici la prophétie que le prophète Bill Hammond m'a donnée le 11 novembre 2004. Il dit, c'est en anglais, moi j'ai plastifié mes prophéties, j'ai une pile de prophéties que j'ai reçues dans ma vie. Et des fois, je retourne. Je vais vous le traduire C'est en anglais. Ça dit, Father, we bless Joel right now and release your anointing grace upon him. Seigneur Dieu, on bénit Joel maintenant et on relâche ton onction de grâce ou de faveur sur lui. The Lord said, I put in your heart for a certain amount of training and equipping. C'est-à-dire qu'il dit, Dieu dit que j'ai déposé dans ton cœur un désir pour être formé et équipé. A certain amount of education, certain amount of preparation. Donc, une dimension de préparation, d'éducation. But now the Lord says, you have a little more to finish and to complete. Donc, il dit, mais le Seigneur te dit que tu as encore un petit peu plus à faire et à compléter. Then you'll start moving to that first phase of your ministry on a level that you've never moved before. Ensuite, donc après la préparation, tu vas commencer à opérer dans la première phase de ton ministère sur un niveau que tu n'as jamais expérimenté. The Lord says, son, le Seigneur te dit, mon fils, you're on schedule, you're on time. T'es à l'heure. My grace, ma faveur, ma grâce, is supplying, t'équipe en ce moment. And I want you to know, et je veux que tu saches, that you're on time, you're a little frustrated, and you think you need to move faster, but you're right on time, on schedule, not your time, but my time. Traduction. Je veux que tu saches que t'es un peu frustré maintenant, et tu penses que tu voudrais aller plus vite. Mais Dieu te dit, t'es à l'heure, sur la cédule de Dieu. Pas ton temps, mais son temps. And we're going to perfect that which concerns you. Et on va perfectionner, si on veut, ce qui te concerne. Move ahead. I will bring it all to pass and it will be accomplished, says the Lord. Amen. Continue. Avance. Et je vais tout faire en sorte que ça s'accomplisse. Et ça s'accomplira, dit le Seigneur. Amen. Bon, ça c'était une parole prophétique correctrice. Hein? J'étais frustré. Dieu le savait. Et puis Dieu m'a parlé par cet homme de Dieu-là, qui ne me connaissait pas du tout, qui ne connaissait pas ma vie, mais qui arrive et me dit, t'es frustré, mais t'es sur la cédule de Dieu. J'ai dit ça ce matin, je vous ai partagé, je vais peut-être vous partager les choses que j'ai reçues de Dieu, peut-être vous avez commencé à découvrir des choses pour votre propre vie. Mais quand j'ai reçu cette parole-là, Dieu m'a montré une chose très, très claire concernant ma vie. Puis je vais vous lire. Venez avec moi dans Proverbes 16, verset 7. Si vous voulez expérimenter la faveur de Dieu dans vos vies, vous avez absolument besoin d'être patient. Absolument besoin d'être patient. Sans la patience, on fait comme Abraham avec sa servante Agar, et puis on va accoucher des Ismaël. Et on prend des détours, et des fois on pense qu'on va plus vite tout seul en faisant à notre tête. Mais finalement, on ne va pas plus vite, on prend des détours, puis on se fait mal en chemin. Mais si on est prêt à être patient, puis je vais vous aider ce matin, on va prendre le temps que ça prendra. Mais remarquez ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Ceci, dans ma vie, personne au monde ne peut empêcher ma destinée. Je vais le répéter, dans ma vie, personne au monde ne peut empêcher ma destinée, sauf moi-même. Personne au monde, pas un président d'antenne de TV, pas un pasteur, personne au monde ne peut vous empêcher d'entrer dans votre destinée, sauf vous-même. Très important comme leçon de vie. Parce que si vous pensez que quelqu'un peut vous empêcher, vous allez être frustré non seulement de la situation, mais vous allez être frustré contre celui que Dieu a pointé dans votre vie pour être une source de bénédiction. C'est vrai ça. Moi, j'étais frustré contre mon patron. J'étais frustré contre le président de l'antenne de TV. Mais je me suis repenti de la part de Dieu. Je me suis repenti parce que je pensais que c'était lui qui devait faire quelque chose. Et Dieu m'a montré... Quand ce sera ton temps, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun démon de l'enfer, il n'y a aucune personne qui peut t'empêcher de te rendre là où tu te rendras. Mais ça a pris son prophète pour me dire, t'es à l'heure, t'es frustré là, Joel Spinks, là, t'es frustré, mais t'es à l'heure. Continue. Remarquez bien, Proverbe 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand c'est votre temps, même vos pires ennemis vont vous faire des faveurs. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, c'est votre choix. C'est votre choix. Je vais vous relire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Savez-vous ce que vous avez besoin de faire? Puis je vais vous donner plein de choses un matin. Je sais, c'est de Dieu, il faut que je vous amène des choses qui sont claires, là. Peut-être ce matin, vous avez le goût de vous débattre, là. Votre chair, non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Au nom de Jésus, vous annulez la parole de Dieu si vous faites ça. Si vous êtes prêt à mourir, pasteur Jérémie a prophétisé ce matin. Si vous êtes prêt à mourir, vous allez vivre. Si vous êtes prêt à mourir à vos idées, à vos raisonnements, vous allez vivre et vous allez entrer dans votre destinée parce qu'il n'y a personne au monde qui peut vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Certainement, Dieu va se servir des hommes et des femmes pour vous propulser. Il va y avoir des instruments de Dieu. Il va toujours y avoir des instruments de Dieu, mais ce ne sera pas les hommes qui vont le faire, c'est Dieu à travers les hommes qui vont le faire. C'est Dieu qui va le faire. Vraiment, vraiment, là, on n'ira pas plus loin ce matin. Il faut juste arrêter là 2 secondes, là. Quand c'est votre temps, il n'y a personne qui vous connaît. Vous êtes éloigné de tout le monde sur la planète Terre. Dieu va faire en sorte que vous allez recevoir une invitation pour faire quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et sa façon de faire les choses, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut vous empêcher de faire ce que Dieu vous appelle à faire. À ce moment-là, je peux être dans un repos total dans ma vie. Je peux être dans un repos parce que je sais que c'est Dieu qui va le faire. Dieu va le faire. Si je ne crois pas que c'est Dieu qui va le faire, ça veut dire, moi, il faut que je le fasse. Puis s'il faut que je le fasse, mais il faut que je m'organise pour orchestrer des choses pour que ça l'arrive. Il faut que j'orchestre ça, là. Excusez-moi, vous me voyez encore, là, ou non? OK, c'est transparent, je vais peut-être me mettre à côté. OK, venez avec moi dans Proverbes 21:1. Écoutez bien, le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ce matin, si vous êtes frustré de la vie, Dieu veut que vous soyez défrustré. Changez de bord maintenant. OK. Je vais juste vous lire quelque chose. Je vais ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Êtes-vous capables? OK, là, on se dit, OK, je dois être patient. Première chose, si je veux entrer dans l'appel de Dieu sur ma vie, je dois être patient. Je dois vraiment m'abandonner entre les mains de Dieu. Si, là, je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses, Dieu va s'en charger pour ma vie. Mais là, ce qu'on doit voir ensemble, venez avec moi dans Deutéronome 8, verset 2. Savez-vous que Dieu va préparer tout le monde pour leur destinée s'ils veulent bien entrer dans son programme? Si vous voulez le programme de Dieu, si vous voulez le programme de Dieu, frères et sœurs, Dieu va vous former. Puis si vous dites, ah, mais je pense que je suis en retard. Non, si vous restez connecté avec Dieu, Vous restez dans son programme. Dieu ne peut pas vous oublier. La seule chose que Dieu oublie, c'est vos péchés. C'est vrai ça. Dieu ne peut pas vous oublier. Les hommes peuvent vous oublier. Mais savez-vous, quand les hommes vous oublient, Dieu parle aux hommes, Dieu donne des rêves, Dieu donne des visions, Dieu parle. Reposez-vous totalement ce matin entre les mains de Dieu. Regardez, Deutéronome 2. Ici, là, je veux vous faire comprendre. Moïse, avez-vous entendu parler de Moïse? Vous avez entendu parler de ce personnage-là, Moïse? Un grand homme de Dieu? Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse, là, il a dû attendre. Moïse a dû attendre. Avant de pouvoir libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, Moïse a été 40 ans dans le désert, comme berger, en préparation. 40 ans dans le désert, avec des brebis. 40 ans à être préparé pour vivre encore un autre 40 ans après avec des charlus. Alléluia! pour vivre le chialage, j'ai dû avoir 40 ans de préparation. Deutéronome 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Voyez-vous, Moïse, grand homme de Dieu, Dieu l'a mis à part, 40 ans, je relis, « Souviens-toi de tout chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier. » On va laisser ça descendre. « Afin de t'humilier. » Pourquoi, Seigneur? Moi je n'ai pas d'orgueil. Là. Moi, j'aurais été bien plus vite que Moïse. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia, je suis tellement humble. Alléluia. Ben Moïse, lui, il avait besoin d'être humilié pendant 40 ans afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Moïse, tu vas être utilisé de Dieu? OK. Va-t'en prendre soin des brebis pendant 40 ans dans le désert. Et là, on verra bien ce qu'on retrouve dans ton cœur. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es prêt à servir les brebis? Est-ce que tu es prêt? Donc, Moïse devait attendre sa saison. Puis, en passant, c'est ça que j'ai reçu dans un rêve. Les personnages que je vais vous mentionner. Donc, ça se peut que ça vous concerne. Le prophète Élisée. Avez-vous entendu parler du prophète Élisée? Il devait attendre sa saison aussi. La saison de la faveur était sur sa vie. Mais savez-vous, avant le prophète Élisée, Élie, le prophète avait eu un autre serviteur qui l'a abandonné. Mais Élisée s'est montré fidèle et remarquez le rôle du prophète Élisée. Avant d'être le prophète qui a pris le manteau du grand prophète Élie, Élisée, dans 2 Rois 3:11, sa réputation de cet homme-là, savez-vous c'était quoi sa réputation pendant peut-être 10-12 ans de service auprès du prophète? Élisée, c'est celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'était ça, sa job. Il versait de l'eau sur la main du serviteur. Sauf que l'école du prophète Élisée, avant d'avoir un ministère miraculeux, Dieu dirait, « Toi, parfait, tu vas avoir un ministère glorieux, mais pendant 12 ans, ce que tu vas faire, tu vas verser de l'eau sur les mains du prophète Élie. » Comme une champlure. C'est ça son ministère. C'est à même sa réputation. Celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. En d'autres mots, il était le serviteur du prophète. Il marchait avec lui. Il accompagnait, certainement. Et puis, voyait le miraculeux. Il était à l'école des miracles, si on veut. Mais ce qu'on voit, son rôle, c'est celui d'un serviteur. Pensez-vous que peut-être Élisée aurait voulu vivre des plus grandes choses pendant un temps? Pensez-vous que ça se peut? Pendant 12 ans, votre job, là, votre travail, c'est de verser de l'eau sur les mains du prophète. Il avait les mains. Pensez-vous que pendant 12 ans, vous seriez peut-être frustré? Je vais parler ici, peut-être les autres, écoute. Et puis vous autres, pensez-vous? Donc, là, je suis assis. Il y en a qui sont en train de faire une crise de cœur. Que Dieu vous délivre de la religion. Bon, remarquez bien. Venez avec moi dans 2 Rois, chapitre 2, verset 8 à 14. 2 Rois, je vais vous lire quelque chose ici concernant le ministère d'Élisée. Remarquez bien. Alors Élie prit son manteau, le roula. Rappelez-vous, Élie, c'est le grand prophète. Il a fait descendre le feu du ciel. Wow! Ministère de puissance. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là, ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, Élie, le jeune qui est là au service du grand prophète, demande ce que tu veux. Donc, Élie lui dit à Élisée, son serviteur, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Demande-moi ce que tu veux, là, Élisée. Demande-moi, Élisée, ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Finalement, ce qu'Élisée voulait, c'était l'onction de Dieu. « Je veux avoir le double de ton onction sur ma vie. Ce que Dieu t'a donné comme onction, moi je veux le double de ça. » Wow! Verset 10, il y dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Plein de choses qu'on va voir là-dedans. Remarquez bien. Élie dit à Élisée, son serviteur, « Tu demandes une chose difficile ici, là. C'est difficile ce que tu demandes. Mais si tu me vois, pour le voir, il devait être là, n'est-ce pas? Si tu me vois, il devait se tenir proche, être fidèle. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, savez-vous, il savait déjà qu'il était pour être enlevé. Enlevé au ciel, comme ça, c'est un miracle. Pendant que je serai avec toi, cela t'arrivera aussi. Si tu me vois là, mais aussi il faut avoir la vision spirituelle pour avancer dans notre vie chrétienne. Il faut avoir la vision de l'esprit pour pouvoir discerner ce que Dieu nous appelle à faire. J'ai bien à cœur de vous dire plein de choses, j'espère que je vais y arriver. Mais ici, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Vous comprenez? Si tu me vois monter au ciel, tu vas recevoir l'onction sur ta vie, deux fois mon onction, tu vas recevoir ce manteau d'onction, puis si tu ne me vois pas monter, tu ne l'auras pas. Imaginez, ça fait 12 ans là, que je te verse de l'eau sur les mains, là, j'espère bien de l'avoir. Hein? Non, c'était pas là, tu l'auras pas. C'est ça qu'il dit. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie, le prophète, disparaît au ciel. Alléluia. Char de feu passe, des chevaux de feu passent. Ça arrive pas tous les jours, ça. Mais c'est comme ça, il est parti au ciel. Verset 12. Élisée regardait et criait. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est ce Dieu? » Là, lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le même ministère miraculeux du prophète Élie, tout d'un coup, Élisée venait de recevoir cette onction, mais au double. Hallelujah! Mais il a versé de l'eau pendant 12 ans. Alléluia. Moi, je ne veux pas ça, c'est un ministère-là de serviteur versé de l'eau. Parce que ce n'est pas assez glorieux. Je vais aller voir mes amis de ce bord-là. OK. Donc, on a compris. Moïse a dû être formé. Moïse a dû être formé, n'est-ce pas? Ensuite, on vient de voir qui, donc? Élisée. Élisée aussi. 12 ans. Verser de l'eau sur quelqu'un. Ça, c'est super merveilleux. OK. Même Jésus devait attendre sa saison. Même Jésus devait attendre sa saison. Ah oui, Jésus! Oui. Avez-vous déjà remarqué, en lisant la Bible, on n'entend pas grand-chose de la vie de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans? On entend un petit peu, là, sa naissance au temple. Mais après ça, son adolescence, on n'entend pas grand-chose. Avez-vous déjà remarqué ça? Pas grand-chose, là. Mais tout d'un coup, à 30 ans, donc, si on descend sur lui, son ministère commence, et là, on entend parler de lui. Mais imaginez Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, là. Jésus, le Fils de Dieu. On dirait, bien, lui devrait vraiment être bien connecté avec le Père, là, quelque part. Il devrait être connecté, puis ça devrait aller assez vite, son affaire. Bien, ça a été quand même 30 ans de préparation pour Jésus. 30 ans de préparation. 30 ans de préparation. Combien d'entre vous, vous allez à l'université 30 ans de temps? C'est long, longtemps, ça. Je vais vous lire ça. Regardez bien. Luc 2, 52. Venez avec moi. Je vais vous prouver ici que Jésus a dû attendre parce qu'il a avancé. Ce matin, vous avez une grâce de Dieu, pas parce que c'est moi, là. Oubliez ça, là. Vous avez une grâce de Dieu parce que Dieu veut vous parler pour votre propre vie. Puis si vous prenez cette parole, puis vous la croyez, puis vous l'appliquez, vous allez être patient, puis vous ne passerez pas à côté de votre destinée. comme plusieurs grands biens. Je dois le dire, là, plusieurs grands biens. Pourquoi? On ne veut pas attendre. C'est la société micro-ondes. Il faut que ça soit vite. Il faut que ça la couche. Il faut que ça bouge. Ça bouge, tout croche. Puis du tournage en rond. Ah, c'est pas ça que Dieu veut. Il n'y a pas de tournage en rond avec Dieu. On ne tourne pas en rond avec Dieu. Sauf quand on est comme le peuple d'Israël, eux autres, ils tournent en rond dans le désert. Avez-vous lu cette histoire-là? 40 ans dans le désert, ils tournaient en rond. Moi, je crois que c'est une illustration de Dieu, ça, pour nous montrer les gens qui murmuraient, impatients. Quand est-ce qu'on arrive, on aurait dû rester en Égypte, là. On aurait dû rester là puis mourir là-bas. Bien, Dieu a entendu une portion de leur murmure. Parfait, vous allez mourir dans le désert. Vous voulez murmurer? Ceux qui murmurent meurent dans le désert. Enregistrez ça. Ceux qui murmurent meurent dans le désert. OK, on continue. Alléluia! C'est la victoire ce matin. Luc 2, 52. Jésus s'avançait ou croissait en sagesse et en stature et en estime devant Dieu et devant les hommes. Remarquez bien, Jésus s'avançait. Il progressait. Comment? En sagesse. C'est le mot « sophia » en grec, qui veut dire « plénitude d'intelligence ». Jésus augmentait en intelligence. C'est ce que ça dit dans la Bible. Jésus augmentait en intelligence. Wow! Il avait besoin du temps de formation pour augmenter en intelligence. C'est vraiment spécial, n'est-ce pas? Et en stature, en maturité. Pas juste physiquement, oui, il a grandi physiquement, mais en maturité. Et en estime, en grâce, c'est le mot charis ici, qui nous parle de grâce ou de faveur. Il a augmenté dans la faveur. La faveur. Là, ça dit devant Dieu et devant les hommes. Répétez après moi, devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus a dû être préparé pendant 30 ans de temps pour arriver à cette place où il était pour augmenter devant Dieu et devant les hommes. Dites devant Dieu. Et devant les hommes. Là, mais vous dites, mais comment est-ce qu'il a appris, lui, Jésus, à grandir comme ça? Mais certainement, il avait une communion avec son Père, n'est-ce pas? Mais savez-vous aussi, il y avait la parole de Dieu à l'époque? Je vais vous montrer le verset exact que Jésus a pris dans sa vie, qu'il a appliqué pour justement prendre ce verset-là pour développer son caractère. Venez avec moi dans Proverbe 3, versets 3 à 4. Proverbe 3, 3 à 4. Ça nous dit ici, si vous venez avec moi, Proverbe chapitre 3, versets 3 à 4. Ça nous dit ici que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-la à ton cou, écris-la sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu, dites aux yeux de Dieu et des hommes. Voyez-vous le texte? Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, frères et sœurs? Je vais vous le relire. On va le décortiquer. Êtes-vous pressé? Avez-vous besoin d'être pressé pour aller courir puis perdre du temps dans votre vie puis tourner en rond? On va prendre le temps pour avancer. Hein? Qu'est-ce que ça vous tente? Moi, ça me tente d'avancer. Amen. Que la bonté. Si je suis assis, là, en passant, vous êtes dans mon bureau. Je vous passe tous en gang. Amen. Remarquez bien. Proverbe 3, 3 à 4. Que la bonté, c'est quoi ça la bonté? La miséricorde. Que la miséricorde et la fidélité, la loyauté ne t'abandonnent pas. Hey, être bon et loyal. Ça, c'était les deux choses que Dieu le Père cherchait dans la vie de Jésus. Que la miséricorde ou la bonté, que la bonté et la loyauté ne t'abandonnent pas. Dieu se cherche un peuple de personnes qui sont bonnes et loyales. Laissez ça descendre. Lis-la à ton cou. Pourquoi ça, ton cou? Pensez à ça. Lis-la à ton cou. Savez-vous, le cou, on choisit où on va avec le cou. On se dirige. Avoir une bonne direction, marcher dans la bonté et dans la loyauté. Écris-les sur les tables de ton cœur, que ça fasse partie de ta personne, la bonté et la loyauté. tu acquerras ainsi de la grâce. Ceux de la faveur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Tu vas devenir très intelligent si tu marches dans la bonté et la fidélité. Et ça fait partie de qui tu es. Puis là, ça dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. La faveur va arriver dans ta vie si tu es bon et loyal. Je vais vous raconter une histoire, puis peut-être on va l'éditer, parce que je ne veux pas que vous pensiez que je me pète les bretelles. Je veux juste que vous compreniez quelque chose. On passe tous par des tests dans notre vie. On passe tous par des tests. Puis si on ne les passe pas, on ne les passe pas. Il faut les reprendre. Mais quand j'étais à l'antenne de TV, on m'a approché par une autre station de TV. 4 fois, ils m'ont approché pour que je change d'antenne, pour que je travaille pour l'autre antenne. Mais dans mon esprit, je savais, ça ne serait pas gentil, ça. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu m'appelait à être loyal. Puis j'ai eu des offres, des fois, avec de l'argent à rattacher. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait mon cœur. Est-ce que tu es capable de passer le test de l'argent, la loyauté? Est-ce que tu es capable de passer ça? Ce matin, peut-être Dieu vous appelle à être loyal et à être bon, miséricordieux. Amen. Mais ça, c'est toute une révélation. Je pourrais arrêter la prédication là, mais je ne l'arrêterai pas. Hey, avez-vous encore du temps pour moi? Hey, je suis quasiment pas du tout nulle part. Je suis comme vraiment à base. Excusez-moi là. Alléluia! OK, je continue. Vous êtes encore avec moi? OK. Là, la première chose, donc, j'ai eu un point ce matin. Un point, premier point, c'est la patience. C'est juste ça qu'on a dit. Si vous arrivez aujourd'hui, la radio, Internet, vous prenez ça, on a juste dit une chose. La patience. Soyez patient. On l'a décortiqué un petit peu matin. Avez-vous remarqué? OK. Êtes-vous prêt pour le deuxième point? OK, on va aller voir le deuxième point. Venez avec moi dans Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10 nous dit ceci. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début ou les petits commencements. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Moi, je l'aime ce nom-là, Zorobabel. Ça dit, il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Vous voulez être dans la faveur de Dieu? Monsieur Tout-le-Monde, savez-vous ce qui attire Monsieur Tout-le-Monde? Monsieur Tout-le-Monde est attiré par ce qui frappe l'œil. Hey, ça, c'est impressionnant. Wow! Ça, je prophétise que c'est du succès, ça. Oh! 50 000 personnes dans cette église-là. Hey, ça, c'est une église, je vous le déclare, c'est une église à succès. Ça, c'est prophétique au bout, hein? 5 personnes dans un sous-sol qui prient. Oh, ça, c'est l'échec, ça. C'est l'échec, regarde. 5 personnes, là. Voyons. La Bible nous dit, il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Dans Louis II, les petits commencements. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Il faut avoir une vision spirituelle que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas. Monsieur Tout-le-Monde voit ce que Monsieur Tout-le-Monde voit. Mais celui dans la faveur de Dieu va expérimenter une vision surnaturelle pour pouvoir discerner les saisons des choses, pour discerner ce que Dieu est en train de faire. Moi, je suis sûr que quand pasteur Michael a reçu la vision dans sa douche, enseigne-moi.com, je suis sûr qu'il n'y avait personne dans sa douche, je l'espère. Mais je suis certain qu'au début, il n'y avait pas plein de prophètes qui disaient « Oh, hallelujah, ça va faire tout du monde, cette affaire-là. » Non, au début, c'est tout du monde chialeux. Ça donne quoi? C'est une petite affaire. Des petits jeunes, là, ils travaillent là, dans une place super pauvre. En plus, c'était laid, en plus, votre bureau. Hein? Je l'avais vu, c'était laid. Excusez, là. Mais c'était pas beau. Il n'y avait rien d'attirant. C'était laid, c'était quétaine. Oh, vous arrêtez d'en mettre. Hein? Il n'y avait rien d'attirant. Mais pourtant, ils ont eu la vision que Dieu était pour faire quelque chose de plus grand. Il faut avoir la vision. Savez-vous, je vais vous partager d'une vision que notre sœur, Mélissa Duguay, a eue. Mélissa, on était dans le sous-sol chez mes parents en train de prier. On était un petit groupe, je ne sais pas, 15, 20, 30, je ne sais pas. C'est un petit groupe, on priait. Et puis, elle a reçu une vision de Dieu le 7 janvier 2009. Voyez bien ce qu'elle a reçu. Puis, je l'ai appelé cette semaine parce que j'ai retrouvé cette prophétie-là. Puis là, j'étais comme, il n'y avait pas de nom de la personne. Mais là, moi, de mémoire, je pensais que c'était elle. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, « Mélissa, est-ce que tu te rappelles qui a donné cette parole, qui avait reçu cette vision? » Ben oui, je crois que c'est moi. J'ai dit, ben c'est ça que je pensais. Regardez bien. Alléluia. Préparation, temps de préparation. Je prépare tout en votre faveur. Oh, le mot faveur. Dieu disait dans cette vision-là, je prépare tout en votre faveur. Soyez confiants, je vous envoie des alliés insoupçonnés. Ça, c'est mercredi, le 7 janvier 2009. Là. On est tout seul. Dans le sous-sol chez mes parents, on prie, c'est rien de prière et d'intercession, on prie en langue, on prie, Seigneur Dieu, tu nous as appelés à rejoindre la francophonie, de rejoindre les gens aux quatre coins du globe, tu nous as donné le mandat divin, maintenant tu dois nous équiper, envoie-nous les gens, Seigneur Dieu, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on puisse arriver à ce que tu nous appelles à faire. Parce qu'on sait qu'on peut pas le faire tout seul, là. C'est trop grand cette affaire-là. Elle reçoit en vision, préparation, temps de préparation, je prépare tout en votre faveur, soyez confiants, je vous envoie des alliés insoupçonnés. Et là, elle dit, j'ai vu une boule comme un noyau d'atomes très brillante, il y avait d'autres petites boules qui tournaient autour. Un noyau là, d'atomes, imaginez ça. Elles étaient liées par un petit fil de lumière. J'ai clairement ressenti que les gens avec qui le ministère ferait affaire dans la francophonie seraient liés à nous, par plus que des affaires. En d'autres mots, pas juste business, c'est pas pour ça. Ils seraient près de nous comme faisant partie de notre Église. J'ai vu beaucoup d'amour entre nous tous et eux. Puis là, on se dit, ben, quand est-ce que ça va arriver, cette affaire-là? C'est fait, ça. Avez-vous entendu parler d'enseignement.com, pasteur Jérémie et Annabelle qui ont déménagé par la suite, pasteur Michael et Yveline? On est là, nous autres, les petits Québécois, on est dans le sous-sol. Ça envoie-nous le monde, Seigneur Dieu, pour rejoindre la francophonie. Et là, le 7 janvier 2009, on reçoit ça. C'est un temps de préparation, mais je vous envoie des alliés insoupçonnés. Des Français de France, une Suissesse, puis un de l'île de la Réunion. Insoupçonnés, je ne savais même pas que ça existait, moi, l'île de la Réunion. J'ai appris ça plus tard. Ah, oh, proche de Madagascar? Mais ça non plus, je ne savais pas que ça existait. C'est une joke. Mais là, Dieu était pour faire quelque chose. Ah, oh, gloire à Dieu. Ça a l'air que Dieu est dans l'affaire, d'abord. Ça se peut-tu? OK. C'est pour ça. Il ne faut pas mépriser les petits efforts. Il faut avoir la vision de Dieu. Si vous n'avez pas la vision de Dieu pour votre vie, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer à côté de ce que Dieu veut. Parce que vous allez voir avec vos yeux charnels. Vous allez voir juste avec ce que vos yeux voient. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Si vous êtes normal, vous allez faire ce que le monde normal font. Vous allez être normal. C'est triste. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début, les petits commencements. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Dans le temps où ça a l'air de rien, c'est là où il faut se réjouir. Il faut se réjouir et avoir la vision de Dieu. Si vous n'avez pas la vision de Dieu, priez que Dieu vous la donne. Dans Éphésiens 1, ça nous donne une belle prière. Mais sérieusement, frères et sœurs, la frustration, ça vous mène à rien. La frustration dans votre vie spirituelle ne vous mènera jamais à accoucher les desseins de Dieu. La patience, oui. La patience est le discernement des saisons et la vision de Dieu et un repos complet dans la personne de Jésus. Un repos complet. Là, vous êtes là, vous êtes reposé en lui. Puis quand c'est temps d'accoucher, là, ça l'arrive. Quand une femme accouche, là, avez-vous déjà vu une femme accoucher? Moi, j'ai vu une femme accoucher deux fois. Elle sait quand c'est le temps d'accoucher. OK, on est au deuxième point. Alléluia. Troisième point. il faut aussi mener une vie dans la paix et la sainteté. Pour entrer dans votre appel, dans votre destinée, dans la faveur de Dieu, je vais vous donner un texte. Venez avec moi dans Hébreux 12, 14 à 15. Hébreux 12, 14 à 15. Ça nous dit dans ce texte, dans Hébreux 12, 14 à 15. Ça nous dit ici, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ouh! Ça, c'est capotant. On va le relire. Bon, première chose, recherchez la paix avec tous. Ça veut dire, dans votre vie chrétienne, si vous voulez être dans la faveur de Dieu, vous n'avez pas de chicane avec personne. Si vous êtes en chicane avec quelqu'un, répondez-vous. C'est simple, hein? Comprenez-vous? Premier point, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. C'est ça que Dieu me dit. Si je suis dans la faveur de Dieu, il faut que je recherche la paix avec tous.
Amen.
Puis là, vous dites, ben, ça veut dire que je ne ferai pas ce que ça me tente de faire. Parce que moi, ça me tente de frapper la personne au visage, ça me tape tellement ses nerfs. Pas physiquement, le pasteur, mais avec ma langue. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter de faire ça. Ça veut dire qu'il faut mourir à nos désirs charnels. Il faut mourir pour pouvoir vivre spirituellement. OK, sauf que là, rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ça veut dire la sainteté. Il faut que je vive dans la sainteté en tout temps pour vivre la faveur de Dieu. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est clair. Là, verset 15, c'est là, vous allez arriver puis vous allez voir quelque chose d'assez révolutionnaire. Veillez à cela que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On parle ici de la grâce, de la faveur. Veillez à cela que personne ne se prive soi-même là, de la faveur de Dieu. Ça veut dire qu'on a l'autorité de se priver de cette faveur dans nos vies. Avez-vous remarqué? Avez-vous votre Bible devant vous? Veillez à ce que nul ne se prive. Ça se peut que Dieu veut que vous marchiez dans la grâce surnaturelle de Dieu, mais peut-être parce que vous êtes en chicane avec du monde puis vous êtes dans le péché, que vous allez vous priver de la grâce de Dieu dans vos vies. La faveur que Dieu en réserve pour vous, vous passez à côté de cette faveur-là parce que je ne suis pas en paix et je ne suis pas dans la sanctification. Et c'est très plate, ça. Là, ça dit, à ce que... Donc, veillez à ça de ne pas être privé de la grâce de Dieu. Est-ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, parce que quand on a de l'amertume dans le cœur, savez-vous, ça va toujours pousser des rejetons qui vont produire du trouble dans votre vie et ça va infecter bien du monde. Ça va infecter non seulement votre vie, qui va non seulement empoisonner votre vie, mais ça va aussi infecter votre entourage. En passant, si vous avez côtoyé des gens qui marchaient dans l'amertume, impatient là, ça faute du pasteur Joël que ma vie est comme ça, admettons. Si vous avez côtoyé des gens comme ça, vous devez demander au Seigneur, si vous voulez vivre dans la faveur de Dieu, puis si vous avez cru que ce n'est pas l'être humain qui nous donne des promotions, que c'est Dieu, si vous croyez ça, là, si vous croyez autrement, ben, ça ne donne rien de ce que je vous dis là. Mais si vous croyez vraiment que c'est Dieu qui est là pour vous donner la faveur, si vous avez côtoyé des gens dans l'amertume, là, ça se peut fort bien que vous avez été infecté. Puis comment qu'on vit ça? C'est des mauvais esprits dans les lieux célestes qui habitent votre vie. Vous êtes dans un entourage de démons. Ça, c'est la vérité. Vous êtes infecté par des mauvais esprits qui vous entourent, puis ça contamine votre langage, puis là, vous vous maudissez vous-même dans votre vie. Là, au lieu d'être dans la gloire puis la faveur de Dieu, là, vous êtes dans l'oppression satanique. Je vous donne clairement, c'est ça. Là. Sauf que là, vous avez côtoyé des gens comme ça. Là, la seule façon de vous en débarrasser, c'est de se repentir du Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai entendu des choses, puis j'ai même emprunté l'amertume, l'offense de quelqu'un d'autre dans mon cœur, puis j'ai commencé à vivre des choses comme ça moi aussi. Puis je sais que dans ma vie, tu me dis dans ta parole que je peux me priver de ta faveur si j'entretiens ça. Je te demande pardon, pardonne-moi Père, puis je déclare au nom de Jésus que ce que mes oreilles ont entendu, au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus et je déclare que ces choses-là sont mises de côté à tout jamais dans la mer de l'oubli. Et aujourd'hui, je choisis de marcher dans la paix avec tous et la sanctification. Et là, j'accepte de vivre dans la grâce de Dieu. Le trouble disparaît. La racine d'amertume vient de mourir au nom de Jésus. Je la maudis au nom de Jésus. Cette racine-là, dans ma vie, qui produisait des rejetons, et j'appelle la faillite de la récolte des rejetons au nom de Jésus. Toutes les personnes que moi-même j'ai contaminées par la suite. Là. Au nom de Jésus, j'appelle une faillite dans cette récolte de semences par mes paroles. Au nom de Jésus, peu importe les personnes que j'ai contaminées et que, en fait, j'ai créé l'atmosphère de mauvais esprit dans ma vie. On dit, ah, ben les chrétiens, on est remplis d'onction. Ah, on est remplis d'onction si on veut. Mais si on veut être environné par autre chose, on peut aussi. Mm-hmm. Mais ce qui est merveilleux, on peut choisir d'être délivré. On peut choisir de dire, Seigneur, moi, là, je veux vivre ta faveur. Je ne veux pas me priver moi-même. Lisez le texte, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je pensais qu'on était favorisé. Je vais à l'église de la victoire du Québec. On est supposément être dans la faveur de la victoire. Ça ne marche pas dans ma vie. Ah, ça doit être la faute de quelqu'un dans l'église, d'abord. Ça ne se peut pas que ça soit de votre faute. Je ne veux pas être fendant. Je ne veux pas être fendant. Frères et sœurs, je ne veux pas être fendant. Je veux être aimant. Pour vous dire la vérité, moi, je ne suis pas un pasteur qui va vous dire des choses pour vous flatter sans du poil. Parce que si je fais ça, vous n'avancerez pas. C'est vrai, vous allez être frustré. Dans 10 ans, je vais vous revoir, là, probablement dans une autre église, en train de continuer le marathon des églises chrétiennes évangéliques de Granby. Encore frustré. « Hey, t'es rendu dans ton marathon? » Number 15. Oh, hey, 5 plus. Il t'en reste encore 5 autres à essayer. Hallelujah. Peut-être rendu ce temps-là, il va en avoir 10 de plus. Oh, 10 more to go. Let's go. Ho, ho. Yes. Hallelujah. Moi, je m'excuse, je prends beaucoup de temps. Hein? OK. Je continue, OK? Vous êtes encore avec moi? La grâce de Dieu est là? On a vu la semaine passée, psaume 84, verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Si seulement je peux vous convaincre, si seulement je peux vous convaincre aujourd'hui. Savez-vous, cette semaine, j'écoutais un témoignage d'une personne qui a vécu une expérience révolutionnaire dans sa vie. Vous la connaissez peut-être, Heidi Baker avait 2 églises avec son mari, elle était missionnaire en Afrique. Et puis, cette femme-là, ce qui s'est produit, elle a vécu une visitation avec Dieu. Et pendant qu'elle avait 2 églises, elle vivait beaucoup de frustration. Elle travaillait des 14 à 18 heures par jour. Elle était épuisée par le ministère. Et là, Dieu a décidé de la visiter un jour. Elle est devenue totalement différente, on va dire ça comme ça. Et puis, par la suite, il y a des gens qui écrivaient contre elle, qui la critiquaient, tout ça. Mais elle raconte, elle dit, j'aime mieux passer du temps avec mon Dieu et produire beaucoup de fruits que travailler beaucoup et produire très peu de fruits. Puis je trouve son ministère tellement inspirant parce que, de un, ce qu'elle a décidé de faire, c'est passer des heures dans la prière par jour. Et si vous dites, ben, passer du temps avec Dieu, je trouve ça difficile, pas quand on est en amour. Si on est en amour avec Dieu, passer du temps, là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est rien. Frères et sœurs, je veux juste vous aider à comprendre. C'est rien. Ah, mais là, faut que j'aie ma montre là. Puis, OK, première heure, countdown, OK, numéro 2 maintenant, numéro 3, numéro. Ça n'a pas rapport. C'est que quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous perdez la notion du temps. Vous perdez totalement la notion du temps, puis vous vivez la présence de Dieu. Et là, cette femme-là est passée de 2 églises frustrée puis épuisée. Puis ce matin, je montrais ça à ma petite Félicité, puis elle la trouvait très bizarre. Elle dit, mon Dieu, donc même bizarre. J'ai dit, oui, bizarre. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis là, cette femme-là est passée de 2 églises à 1000. Non, c'est plus que ça. 10 000. Excusez, j'ai oublié un zéro. 10 000 églises. Ça, c'est la main de Dieu. Elle a ressuscité environ 80 morts, au moins. Au moins 80 morts, ressuscité au nom de Jésus. Mais bizarre, là, elle passe des heures par jour à prier, puis perdre son temps, quand elle pourrait d'autres choses, hein? Non, elle a décidé, moi, là, je passe du temps avec mon Dieu, c'est ça qui compte. Puis c'est ça que je veux vous dire, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. La relation d'amour avec Jésus bannit les murmures dans votre vie. Si vous dites, ben moi j'ai de la misère, pasteur, je suis habitué de moi de murmurer. Passez du temps avec Jésus, vous allez voir, Jésus, lui, il va vous donner un autre discours. C'est vrai. Jésus, passez du temps avec lui, là, vous allez voir là, que vous allez aimer tout le monde. C'est vrai. Hein? Jésus, c'est pas un grogneux, lui. L'avez-vous déjà rencontré? Il chiale pas, lui. Je traduis pour mes Français, là, mes amis français en Europe. Chialer, ça veut dire quoi en québécois, en français? Rouspéter, se plaindre, grogner. Hein, c'est ça? Une heure dans la présence de Dieu, quand on est en amour, devient un rien. Offrons plus qu'un chèque en offrande. Regardez ça. Quand vous venez à l'église, là, hein, on donne un chèque. Alléluia, on bénit l'œuvre de Dieu. Mais offrez plus que ça. Puis pasteur, Jérémie le dit dans la prophétie, offrez votre vie. Offrez votre vie. Puis ah, oh, mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Imaginez si vous passez, là, vous êtes en vacances. Là, admettons, je sais vous travaillez. Il y en a plusieurs, peut-être que vous travaillez, puis vous ne devriez même pas travailler dans ce que vous travaillez. Hier soir, comme je priais, ça me disait, dites-leur, il y en a plein qui font un job que je ne les ai pas appelés à faire. Parce que si vous prenez, donnez-vous là une semaine, admettons, puis vous priez 3-4 heures par jour, là, admettons, dans la présence de Dieu. Puis dans ce temps-là, la faveur de Dieu s'installe tellement dans votre vie, là vous commencez à voir des choses changer dans vos vies. Peut-être Dieu va vous ouvrir une porte là, insoupçonnée, vous n'avez aucune espèce d'idée, ça vous tombe du ciel. Mais ça vous tombe du ciel? Oui, ça vous tombe du ciel. C'est de même que ça s'est passé, ça a tombé du ciel. Peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens, c'est que votre temps avec Dieu, c'était le plus productif au monde. Là. Ça a été tellement productif, vous avez juste été perdu avec Dieu dans sa présence, que Dieu change votre vie par la suite. OK, on était rendu au numéro 3. Je finis bientôt, par la grâce de Dieu. Je finis bientôt. Numéro 4, j'ai 5 points, on est rendu à 4, on arrive à la fin. Si vous avez trop faim pour votre hot dog, allez-y. Valentine, sont ouvertes toute la journée. Une résolution de glorifier uniquement Jésus. Quatrième point, c'est avoir une résolution que je vais glorifier uniquement Jésus dans ma vie. Pour la faveur de Dieu, il faut être vendu à cette pensée, cette conviction-là. Dans le psaume 115, verset 1, ça dit « Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Non pas à nous, c'est pas un vécu qu'on veut glorifier, c'est pas un pasteur, c'est personne, on s'en fout de nous. Ça se dit pas en français de France, c'est mauvais en France. Excusez-moi, pardon. C'est quoi l'autre mot, on fout? On s'en fiche, pardon. Je sais, c'est vulgaire en France. Ici, au Québec, c'est pas vulgaire. Je m'excuse, là. On s'en fiche. On s'en fiche. On n'est pas concerné par un nom, par une église. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le nom de Dieu soit élevé. Puis si, là, vous vivez juste pour ça, là, juste pour que le nom de Jésus soit élevé, que vous soyez en avant ou en arrière, ça ne changera rien. Je peux vous dire, des fois, là, moi, ce que j'ai vu, les gens qui ne veulent rien faire en avant, c'est Dieu, c'est eux que souvent Dieu va choisir. Joan DeWort, qui était la femme du pasteur et président de l'antenne de TV en Alberta, a été comme obligée de faire de la TV. Parce qu'il dit, ben j'aimerais ça, tu sois là avec moi. Ah, oh, ça ne me tente pas, j'aime pas ça. Elle dit, je ne suis pas une personne du public, moi, j'aime pas ça. Elle dit, même, j'ai fait une formation pour travailler avec les microscopes pour examiner les bactéries à l'hôpital, parce qu'elle dit, moi, je suis tellement gênée, j'aime pas ça le monde. Puis c'est pas mon zone de confort, là. Ma zone de confort. J'aime pas ça. Puis là, son mari avait besoin d'elle à TV. Puis au début, elle était tellement pas bonne à TV, j'ai dit ça de même, là, tellement pas naturelle, qu'il y a quelqu'un qui a écrit une fois, il dit, coudonc, est-ce qu'elle parle, cette femme-là? Est-ce qu'elle parle? Oui, oui, elle a fini par parler, là. Mais ça ne tente même pas. Souvent, c'est comme ça avec Dieu. Ça ne nous tente même pas. Puis là, quand c'est le temps de Dieu, Dieu dit, let's go. Ben, je sais si tu y vas, là. C'est pas pour toi, là. C'est pas parce que tu as besoin d'être connu, c'est parce que tu veux que le Seigneur se serve de toi. Tu vas par obéissance. Puis je dis pas si vous dites, ben moi j'ai le goût, pourtant est-ce que je suis charnel? Non, Dieu nous donne le désir de notre cœur aussi, mais juste discerner ça. Pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est pour que le royaume de Dieu avance, pour que la gloire de Dieu soit là, ou c'est un motif personnel? Plein d'autres choses je pourrais dire, mais je continue. La volonté de lui obéir. Dernier verset, Ésaïe 1, 19. La volonté de lui obéir, c'est la crainte de Dieu. Si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur du pays. Plusieurs sont dans la volonté permissive de Dieu. Ils s'en vont au ciel. Ils s'en vont au ciel. Mais puisqu'ils n'ont pas été patients, puisqu'ils ont voulu accoucher eux-mêmes de leur propre destinée, ils ont pris un autre chemin. Ils ont pris un autre chemin et puis ils se rendent au ciel, mais ils sont dans la volonté permissive de Dieu et non la volonté parfaite de Dieu. Moi, je veux être dans la volonté parfaite de Dieu. Soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Soyons patients, soyons des amoureux de Dieu. Perdons-nous dans la présence de Dieu la semaine. Puis, si vous pensez, j'ai invité l'équipe de la louange, s'il vous plaît. Si vous pensez, bien, ça prend du temps, ça. Puis, on dirait que ça va être dur. C'est même pas dur. Croyez pas ça que c'est dur. Combien d'entre vous, vous avez le temps d'écouter un film cette semaine? 2 heures. C'est rien, ça, écouter 2 heures un film. Puis 2 heures avec Dieu. 2 heures avec Dieu, c'est une montagne. Si vous êtes en amour, passer du temps avec quelqu'un, c'est pas dur. Il y en a qui sont en amour dans cette maison. Moi, je suis encore en amour avec ma femme. Alléluia. Il y a un frère qui a dit oui, puis les autres, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Oh, Seigneur, visite-nous. Honnêtement, quand on est en amour, on aime ça passer du temps avec Jésus. Et je veux vous encourager, peut-être que vous avez besoin d'écouter de la musique de louange, peut-être que vous avez besoin de vous acheter un ballon d'exercice puis sauter dessus comme je fais, peut-être que vous avez besoin d'un matelas soufflé puis vous coucher dessus puis juste recevoir de... Peut-être, je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais Dieu va vous le montrer. Puis c'est pas la quantité, c'est pas une question de « OK, là, il faut que je fasse 5 heures, là, puis là, si j'arrive à 5 heures, bingo, le miracle arrive. » C'est pas ça l'idée, c'est de passer du temps avec Dieu. Puis votre temps avec Dieu, là... Je peux vous dire, là, on peut avoir le sentiment, bien là, je perds mon temps. Non, tu gagnes ta vie. Frères et sœurs, vraiment, si je peux vous aider à croire ça, le temps que je passe avec Dieu, là, je suis en train d'avancer bien plus que quand j'essaye de moi-même. Dieu le fait à ce moment-là.
Je voulais juste... apporter une pensée d'encouragement que j'ai eue pendant que j'écoutais le pasteur Joël prêcher. Et ce que je ressentais dans mon cœur, c'est que Dieu veut préparer notre cœur à ce qu'il s'apprête à faire, à ce qu'il veut faire. Mais vous savez, la présence de Dieu, comme on l'a dit souvent, c'est une personne. Une personne qui peut être attristée, une personne qui peut se réjouir, une personne qui a des envies, qui veut ou qui ne veut pas, qui vient ou qui ne vient pas. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu, le précieux Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui aiment Dieu. Et parfois, ils sont dans une église face à un peuple et il ne se passe rien. Et ils vont dans un autre endroit où il y a un peuple qui a soif de Dieu, un peuple qui aime Dieu, un peuple qui espère après Dieu. Et ces mêmes hommes de Dieu voient la gloire de Dieu se manifester. Et souvent, on a tendance à penser... Et c'est là la pensée que j'aimerais vous communiquer, que on suit un homme, on suit des leaders, on est assis, on a notre pasteur, on a nos pasteurs, et on les suit. Et on attend que ce soit eux qui fassent le travail qui amène la présence de Dieu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. On a chacun d'entre nous notre part de responsabilité. Regardez, Dieu a suscité Moïse pour libérer le peuple et conduire le peuple. Mais le peuple a tourné en rond à cause de Moïse. Non, Moïse était parfait devant Dieu. Non, mais c'était à cause des murmures du peuple que le peuple a tourné. Et aujourd'hui, on doit vraiment saisir notre part de responsabilité et ne pas fixer les yeux sur les leaders et dire « Bon ben, c'est à eux de faire, c'est à eux d'avancer, c'est à eux d'amener la présence de Dieu. » Non, c'est tous ensemble. Parce que ce n'est pas un objet, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et il regarde à nos cœurs, il regarde ensemble au peuple qu'on est. Et c'est pourquoi Dieu a suscité des ministères pour l'édification du peuple, pour que nos cœurs soient préparés et prêts, qu'on soit comme un seul homme devant Dieu. Et il y a ce passage dans la Bible, dans Éphésiens au chapitre 4, qui dit qu'il ne sorte verset 29, qui ne sortent de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Et ça rejoint le message, ce qu'on a entendu ce matin. Mais sincèrement, si aujourd'hui vous ne voulez pas le faire pour vous, si aujourd'hui vous ne voulez pas nettoyer votre maison pour vous, faites-le pour votre frère et votre sœur qui est à l'église. Faites-le pour le Saint-Esprit. Faites-le pour la maison qu'on représente vécue. Nettoyons nos vies, nettoyons nos maisons. Prenons notre responsabilité. Ce n'est pas les leaders uniquement, mais le Saint-Esprit regarde à nous tous, au peuple. Voilà ce que je voulais juste vous dire.
Amen. C'est une décision personnelle pour une collectivité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ton amour. Merci parce que tu te rends disponible pour nous. Merci parce que tu es toujours là. On peut passer autant de temps qu'on veut avec toi. Tu te rends toujours disponible. Et tu nous visites. Tu nous parles. Tu nous surprends par ta présence. Tu nous surprends par tes révélations, par tes confirmations, par les portes qui s'ouvrent devant nous, par la grâce qui se manifeste dans nos vies. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu fais de nous tes enfants. Merci parce qu'on peut goûter à ta présence et vivre une vie heureuse avec toi, marchant avec toi dans la joie, dans ta présence, dans ton onction. Nous te louons Jésus, nous t'aimons. Merci parce que tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes. Merci Père parce que tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes. Mais tu nous changes. Et oui, des fois tu nous brises pour nous rebâtir. Merci Seigneur Dieu parce qu'on se laisse faire aujourd'hui afin que ta gloire puisse passer à travers nos vies. Qu'on puisse tous donner des chefs-d'œuvre, des vases de gloire pour ta gloire. Alléluia, la gloire de ton nom. Merci Jésus. Alléluia, je déclare sur chaque tête le shalom de Dieu. Rien de manquant de briser dans vos vies, mais le shalom. Alléluia, merci, nous sommes entiers en toi Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Bon dimanche et soyez richement bénis.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.